Il est 16h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Kim Lacaille. Kim, on parle tout d'abord de ces travaux sur le chemin d'Orlo qui sont presque terminés.
Oui, plus tôt cette semaine, le ministère des Transports du Québec indiquait sur le site Internet Québec 511 que deux chantiers de construction étaient en cours sur le chemin d'Orlo dans la municipalité de Messine. Après vérification, il n'y avait bel et bien qu'un seul chantier sur ce chemin et on a fait le remplacement d'un ponceau. Et là, on disait que les travaux allaient jusqu'à vendredi. Mais là, on a eu une bonne nouvelle. Le ministère des Transports du Québec annonce que le chemin d'Orlo entre Blossy et Messine sera rouvert à la circulation à compter de 17h aujourd'hui, mercredi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la circulation pourra reprendre normalement.
Maintenant, on revient sur l'accident de travail qui a coûté la vie à Stéphane Lefebvre le 23 décembre dernier à Blossy, un accident qui aurait pu être évité.
C'est ce qui ressort de l'enquête réalisée par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail qui a été rendue publique aujourd'hui. Voici le reportage de Félix-Antoine Parent.
Le matin de l'accident, M. Lefebvre, qui était à l'emploi des entreprises Christian Fortin Inc. et un représentant de la compagnie, était affairé à dégeler une conduite d'eau d'un puits de surface. Pour ce faire, ils utilisaient une chaudière artisanale branchée à un tuyau de caoutchouc servant au transport de la vapeur. La chaudière était chauffée à l'aide d'une torche alimentée par une bonbonne de propane. Comme il leur était difficile de maintenir une flamme constante, les deux hommes ont entrepris d'allumer un feu sous la chaudière artisanale afin de combiner les deux sources d'énergie. Comme l'explique l'inspectrice responsable de l'enquête pour la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, Nancy Lemoine, un bouchon de glace s'est formé dans le tuyau transportant la vapeur durant l'interruption des travaux, ce qui a provoqué une accumulation de vapeur dans la chaudière et ce, jusqu'à ce qu'elle explose. Voici ses propos.
Pour améliorer la chauffe de la chaudière, on a fait un feu de bois. Donc, on a reparti l'opération de dégel avec deux sources de chaleur. Comme on avait un bouchon, comme je le disais, la vapeur n'a pas pu circuler adéquatement et la pression s'est emmagasinée dans la chaudière, ce qui a fait en sorte, à un moment donné, que la pression a excédé la capacité de la chaudière et ça a explosé.
Lors de l'explosion, un fragment de métal a été projeté à grande vitesse et a heurté Stéphane Lefebvre à la tête. Son décès a malheureusement été constaté sur place. À la suite de cet accident, la CNESST a interdit aux entreprises Christian Fortin Inc. d'utiliser une chaudière artisanale pour ce genre de travaux. Selon la commission, un tel accident aurait pu être prévenu si les travaux avaient été bien planifiés et si un équipement conçu spécifiquement pour cet usage avait été utilisé. D'ailleurs, il n'est pas impossible qu'une amende soit remise à l'entreprise, comme l'indique Alison Ouellette, responsable des communications pour la CNESST.
La possibilité d'émettre un constat d'infraction est présentement à l'étude par la CNESST. Et d'ailleurs, il faut savoir que la CNESST a un an après la survenance de l'accident pour émettre un constat d'infraction.
Pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise, les conclusions de l'enquête seront transmises à la Régie du bâtiment du Québec, à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et à l'Association des entrepreneurs en forage du Québec, notamment. C'était Félix-Antoine Parent pour CAGIFM.
Et on revient, Kim, sur l'Assemblée générale annuelle du ROSBL.
Le regroupement des organismes sans but lucratif de Gracefield a tenu son Assemblée générale annuelle hier soir. Même si l'année a été difficile, la secrétaire du ROSBL, Raymonde Carpentier, mentionne que le regroupement a tout de même connu une belle année. L'un des points qui a retenu davantage l'attention est l'avenir du bâtiment de la maison Entraide. L'immeuble contient de l'amiante et une solution doit être trouvée très rapidement. Entre-temps, des discussions pour déménager les installations des organismes dans un local temporaire sont en branle. Raymonde Carpentier donne plus de précisions.
On doit contacter des contracteurs pour savoir qui est prêt à prendre la commande. Donc, entre-temps, on voudrait s'en aller dans un endroit pour garder les organismes en vie ensemble, parce que les services doivent continuer à se donner. Tout le monde est d'accord avec ça, que les services sont essentiels pour le secteur sud de la vallée.
Les services offerts par les différents organismes doivent poursuivre leurs activités. Afin de faciliter le futur déménagement, certains organismes ont confirmé au regroupement qu'ils étaient prêts à donner un coup de main au ROSBL.
Il y a des gens qui se sont prononcés pour dire que oui, on va être là pour faire du transport parce qu'au niveau de au bout du jour, ça va prendre des camions réfrigérés. Au niveau du comptoir familial, là, c'est des vêtements. On a des démarches à faire pour voir au niveau de la CNESST pour voir si les vêtements qui sortent de là ont besoin d'être nettoyés, d'être lavés.
Les membres du conseil d'administration du regroupement désirent que le déménagement temporaire ait lieu d'ici la fin du mois. Les gens qui souhaitent aider le ROSBL lors de ce futur déménagement peuvent contacter Famille d'abord ou au goût du jour.
Il y a la communauté de Lac-Barrière qui a récemment reçu la visite de la députée de Pontiac, Sophie Châtel.
Cette première rencontre en personne a eu lieu en raison du projet d'électrification du territoire avec Hydro-Québec. Taliane Roy était sur place et voici son reportage.
Vendredi dernier, la députée de Pontiac, Sophie Châtel, s'est déplacée à Lac-Barrière afin d'aborder les négociations en cours entre Hydro-Québec, le gouvernement fédéral et la communauté algonquine concernant la possibilité d'offrir l'électricité aux résidents via la Société d'État. Alors qu'elle souhaitait discuter des plans pour le projet et des offres sur la table, le chef de la communauté, Tony Wawatsi, ainsi que des citoyens présents lors de la rencontre, ont plutôt exprimé leur vision face à la chose. Apparemment, certains membres de la communauté ne sont pas en accord avec le fait qu'Hydro-Québec s'installe sur leurs terres, et ce pour des raisons de protection du territoire traditionnel notamment. En raison de l'état des maisons, les citoyens réclament de nouveaux logements le plus rapidement possible. Toutefois, sans électricité, cela est impossible puisque le réseau électrique est utilisé à pleine capacité et arrive à la fin de sa durée de vie utile. Écoutons la députée de Pontiac, Sophie Châtel.
On avait plusieurs choses à discuter avec le chef Wawatsi et les membres de sa communauté, les membres du conseil aussi. Entre autres, au centre de tout ça, c'est le besoin en logement qui est criant, mais aussi en termes de centres multifonctionnels, par exemple, et l'école. Donc, vraiment de commencer à planifier l'ensemble de leur territoire.
Si l'hydroélectricité est installée sur le territoire, les membres de la communauté s'attendent à ne pas devoir débourser de frais pour l'installation ni l'utilisation des services, rapportant que lors des débuts de la Société d'État, elle aurait inondé leur territoire traditionnel, entre autres. Un accès gratuit pour quelques années est actuellement une possibilité. La députée s'est tout de même dite satisfaite de la rencontre et espère déjà la suite des choses. C'était Taliane Roy pour CHGA FM.
C'était vos actualités locales et régionales de CHGA FM.